Fin du paragraphe écrit le 16 septembre. 10 jours plus tard, le 26 septembre. D'autres consolateurs n'appartiennent à aucune église et ce ne sont pas ceux qu'on néglige car le talent, la foi de l'orateur compte plus que son appartenance. Auréolé par sa légende, Adjoran est le plus écouté. Il a toujours pensé juste et n'a pas tu sa pensée. Puis, autre chose explique l'engouement de la foule. Le caractère même de l'orateur, trop orgueilleux pour se flatter de l'exactitude de ses prédictions. Alors que prêtres et muftis ne se privent pas de proclamer « Nous avions prévenu, mes frères !» Adjoran ne dit pas « Souvenez-vous !» mais « Priez !» Il dit « Espérez encore !» toujours contre l'affirmation épouvantée des doctes, contre les preuves, contre les théories. Vos savants vous trompaient quand ils vous démontraient que vous alliez vers l'âge d'or et que la technique de l'homme pouvait vaincre les dieux. Ils vous trompent encore quand ils vous montrent au bout de ce chemin l'anéantissement. Reprenez-vous, arrachez-vous à vos idoles. Comprenez enfin qu'une prière ardente est d'un autre effet. Espérez et croyez. Celui qui ne veut pas mourir, il ne meurt pas. Et celui qui, avant de mourir, doit embrasser sa femme, planter un arbre, il embrassera sa femme, il plantera l'arbre. Quittez cette léthargie, cette torpeur qui déjà sentent la mort putride. Vivez pour ne pas mourir. Encore un peu de temps et le malheur s'éloignera de nous. Il ne finira pas d'un coup car la trompette de l'Apocalypse a prédit 5 mois de tourments et le 3e mois s'achève. Mais les morts seront moins nombreuses bientôt. La moitié des hommes seront sauvés. Beaucoup le croient, je l'avoue moi-même. Comme un semblant d'activité se manifeste, nous recommençons d'espérer, bien que les hommes et les femmes continuent de mourir, et que nous ne sachions plus rien de ce qui se passe dans le monde. Ce silence des ondes, cette nuit sur nos écrans, sont pour un peu dans notre stupeur. Cela pèse sur nous autant que l'ombre de la mort prochaine. Ou bien, n'est-ce pas la même chose? Ce qui nous effraie dans la mort, n'est-ce pas le silence, la nuit qu'on imagine? J'ai vu Wrighty mourir. Ces derniers mots me hantent. Toute ma vie, j'ai voulu découvrir une preuve vraiment irréfutable de l'existence de Dieu. Elle était sous mes yeux. Je ne savais pas la voir. La stupidité de l'homme. Fin du paragraphe du journal écrit le 26 septembre, puis le 16 octobre. Chaque jour, je retrouve les filles Honedi que le général a laissées à Tijika dans le logique espoir que cette ville du désert serait moins dangereuse pour elles que Washington ou New York. Paloma ne rit plus, ne danse plus, ne parle plus. Hier encore, lorsqu'on annonçait, de bouche à oreille toujours, un nouveau message d'Adjoran, elle était la première à se précipiter au lieu de la réunion. Là, impatiente, ouverte, elle buvait non seulement les paroles mais l'image, la présence du prophète. Mais, depuis le jour où, invité par elle à venir au palais, il a décliné cette invitation, elle ne daigne même plus se déranger pour l'entendre. C'est ici que Rosa et moi intervenons. Rosa Honeydy est une fillette de 17 ans, douce et docile. Je pensais naguère insignifiante, et la jeune fille ne tentait pas de me détromper. Maintenant, bien qu'elle n'ait pas changé ou à cause de cette permanence, je la juge différemment. Son exemplaire sagesse, banale et presque triste au milieu des fêtes anciennes, revêt, dans l'horreur actuelle, le caractère d'une surprenante vertu. Sa douceur devient du courage, le soin qu'elle porte aux besognes quotidiennes, une héroïque témérité. Elle me fait comprendre le sens véritable de la leçon du prophète « Vivez pour ne pas mourir », c'est-à-dire occupez votre esprit et vos mains, refusez l'oisiveté qui fait le climat des grandes tragédies. Sans en avoir conscience d'abord, je suis devenu le chevalier servant de Rosa. Je la conduis dans les boutiques des faubourgs, où l'on peut se procurer encore les denrées nécessaires au maintien de la vie. Je l'accompagne dans les hôpitaux où quelques moribonds quotidiennement l'appellent, et jusque dans le désert où sévit la plus grande misère du monde. J'ai omis de signaler cette superstition nouvelle des foules, parce que les hôpitaux et les cliniques, avec leurs appareils radio et les postes émetteurs de télé ou de Reflifcon, se trouvent dans les villes, on croit que hors des villes, le danger sera moindre. En vain, le conseil technique, sur ma recommandation, a publié une mise au point pour démontrer l'erreur d'une telle croyance. Le public ne se laisse pas convaincre. L'exode vers les déserts ne se ralentit pas. Au 100e jour de la grande panique, plus de la moitié des survivants de Tijika ont cherché refuge au-delà de la zone verte, parmi les pierrailles et les sables où s'édifient maintenant 100 000 campements. Certains fugitifs dorment à même la terre glaciale la nuit en cette saison. Aucun ne mange à sa faim, et la plupart dépérissent de peur ou d'ennui. Mais la ville se dépeuple, et la panique s'en accroît. Même ceux qui vont mourir veulent mourir dans les sables, espérant peut-être ainsi durer 2 ou 3 jours de plus. Au cimetière rempli, supplée d'innombrables charniers que le soleil dessèche et que les oiseaux nettoient. Auprès de ces tas d'ossements, les hommes dorment épris. Or, c'est là qu'Adjoran se dresse, au milieu des malades, des affamés et des morts. « Rien n'est perdu, aussi longtemps que vous vivrez !» Voilà ce qu'il crie. Ou bien, élevant au ciel ses longs bras maigres, « Dieu inconnu » prie-t-il. « Écoute notre clameur, nous avouons nos fautes, notre folie. Donne-nous un peu de temps pour apprendre à te connaître, à épeler ton nom. Ne détruis pas la semence de l'homme, car ton avenir est notre avenir, et les méchants ne peuvent empêcher l'avènement de ta puissance. » Lorsqu'il eut fini de parler, nous nous sommes approchés de lui et Rosa, très humblement, l'a prié de venir avec nous au palais où, disait-elle, sa sœur a grand besoin de lui. Il l'a regardée. Regarde-t-il jamais cet homme? Ses yeux, petits de près et myopes, sont des miroirs, s'y reflète sa seule vérité. « Je ne peux quitter ces foules, dit-il. Plus tard, j'irai, quand l'épouvante sera vaincue. Dans 27 jours. J'ai calculé, cela nous reporte au 13 novembre. Comment un être humain peut-il savoir ces choses? Ou bien sommes-nous ignorants à ce point, captifs de notre étroite raison? Le 13 novembre, eh bien, je le crois. Comme tout à l'heure je quittais Rosa, je n'ai pu m'empêcher de serrer dans mes bras cette petite fille. Je l'ai embrassée, elle-même a répondu à ma caresse. Elle aussi, elle vit à nouveau. Fin du paragraphe du 16 octobre. Le 7 novembre. Honedi règne. Si l'on en croit du moins les informations vagues et incohérentes qui nous parviennent de là-bas. Je n'aurais pas le courage, personnellement, de mettre en marche un poste de radio. Mais cette témérité, il se trouve que des hommes l'ont et qu'ils n'en meurent pas. Bouli est l'un d'eux. Je lui en dois l'hommage. Il semble qu'à New York, un dictateur noir ait pris le pouvoir au cours du mois d'octobre. C'est alors que Honedi, utilisant ses relations à la Maison Blanche et ses connaissances approfondies de l'islam, se serait fait porter à la présidence par les trusts à la fois et par les musulmans. Refusant le titre de président, il porterait celui nouveau de général suprême. Je soupçonne Rosa ou Paloma de lui avoir communiqué, par lettre, la plus récente prophétie d'Adjoran. Dans son premier discours public, Honedi aurait promis solennellement la fin de la grande panique pour le 13 de ce mois. Tant il est vrai qu'en ces jours noirs, l'esprit le plus raciste se défend mal d'une certaine superstition. Mais encore, pour lutter contre cette panique contagieuse et mortelle qui tue plus sûrement que le mal, une croyance, fût-elle naïve, n'est-elle pas le meilleur recours? Je prie souvent, et quand je prie, l'espoir renaît. Fin du 7 novembre. Le 13 novembre. Depuis une semaine, chaque jour, on a pu constater en ville une mortalité moindre que la veille. Lundi, 2800 morts, mardi, 1300, mercredi, 600, jeudi, 340, avant-hier, 130, 50 hier. Pour aujourd'hui, les chiffres ne sont pas encore connus. Il est possible qu'on n'atteigne pas la dizaine. Plus tard, lorsqu'on fera le bilan de cette horreur, on remarquera sans doute que le fléau a commencé de s'éteindre dès le début de novembre, car le 29 octobre, on dénombrait encore plus de 8000 morts dans la journée. Mais nous n'avons ressenti, vécu la délivrance que depuis mardi dernier. Ce jour-là, les gens ont commencé de rentrer en ville et Mured El-Rahi, le frère de l'ancien préfet de police, a pu prendre les premières mesures d'ordre et d'hygiène. Puis, insensiblement, la vie est redevenue ce qu'elle était autrefois. À cela près que la population de Tijika a été en 5 mois diminuée de moitié. Du début de septembre à la fin d'octobre, on estime que 500 000 personnes ont péri. Pour l'ensemble de son évolution, le fléau a duré 5 mois moins 11 jours. Si l'on peut en juger par Tijika, de 5 à 6 milliards d'humains sont morts dans le monde pendant ces 4 mois et demi. Fin du 13 novembre. 15 novembre. Adjoran a tenu sa promesse. Hier soir, il était au palais. Lorsque nous sommes revenus de nous promener dans la ville, Rosa et moi, nous l'avons vu debout, immobile, dans le grand hall de réception. Il y a 6 mois, ce hall, quotidiennement, grouillait d'une foule impatiente. Il paraissait alors une pièce exiguë. Aujourd'hui, quasi désert, il semble immense. Il y a 6 mois, chacun se voulait mieux logé, mieux nourri, travaillant moins ou libéré de l'impôt. Nul n'était tout à fait satisfait de son sort. Mais aujourd'hui, personne n'a plus rien à souhaiter, à quémander, que la vie. Et ce n'est pas là une faveur qu'on puisse obtenir d'un gouvernement. Sagement donc, Adjoran attendait, seul. Je m'en étonnais d'abord, puis je reconnus en cet abandon la manière d'être de Paloma, humilier à son tour celui qui trop longtemps l'a elle-même humiliée. Une attitude puérile. Je n'admire plus en tout la fille aînée de Harold Onedi. Tacitement complices, Rosa et moi, nous allâmes vers le prophète et je l'invitai à partager mon repas. Mais Rosa également voulait l'avoir pour hôte, en sorte que plaisamment nous le disputâmes. Puis une servante mauresque survint et pria le prophète de la suivre. Alors j'acceptai moi-même l'invitation de Rosa. Je me flatte vainement que Paloma ne m'est plus rien. Me persuadant d'avoir été repoussée par elle, quand réellement je ne me suis jamais déclarée. Elle sera toujours l'être que j'admire le plus au monde. Son effondrement même pendant les jours terribles ne peut me la faire mépriser. Son attitude hier ne peut me la faire haïr. Pourtant, je ne crois pas revoir le fabuleux spectacle qu'elle nous offrit. Je ne crois pas qu'une entreprise de séduction puisse être mieux conçue et mieux conduite. Je le sais maintenant. Le soin qu'elle prend d'elle-même, son intelligence aiguë et cruelle, la perfection de sa voix, de son maintien, font de cette fille un piège redoutable. Il y a plus. Elle peut douter de son pouvoir et chercher l'aide d'autres moyens. Adjoran ne boit pas et ne fume pas. Alcool et cigarettes aphrodisiaques seraient donc sans effet sur lui. Il mange, mais peu. Des viandes grillées, des légumes crus. Par là non plus, on ne pourrait l'atteindre. Reste l'atmosphère même, la suggestion sonore. Dès notre entrée dans le salon, où Paloma nous reçut, je fus sensible à la prenante odeur qui paraissait imprégner l'air. Quant aux musiques que diffusait un très antique phono, je les jugeais agréables, sans plus. Mais, y réfléchissant, il me faut m'étonner de l'étrange langueur qu'elle suscitait en moi. L'idée me vient, tardive, que les sons anodins pouvaient recouvrir, cacher, une invocation érotique, dont nos sens furent bientôt impressionnés.